Germaine de Staël. Delphine. Troisième partie. Lettres 1 à 6 comprises. Lettre première. Léonce à Delphine. Paris, ce 4 décembre 1790. La perfidie des hommes nous a séparés, ma Delphine. Que l'amour nous réunisse. Effaçons le passé de notre souvenir. Que nous font les circonstances extérieures dont nous sommes environnés? N'aperçois-tu pas tous les objets qui nous entourent comme à travers un nuage? Sens-tu leur réalité? Je ne crois à rien qu'à toi. Je sais confusément qu'on m'a indignement trompé, que je l'ai reproché à une femme mourante, que sa fille se dit ma femme, je le sais. Mais une seule image se détache de l'obscurité, de l'incertitude de mes souvenirs. C'est toi, Delphine. Je te vois au pied de ce lit de mort, cherchant à contenir ma fureur, me regardant avec douceur, avec amour. Je veux encore ce regard. Seul il peut calmer l'agitation brûlante qui m'empêche de reprendre des forces. Mon excellent ami Barton n'a-t-il pas prétendu hier que ton intention était de partir et de partir sans me voir? Je ne l'ai pas cru, mon ami. Quel plaisir ton âme douce trouverait-elle à me faire courir en insensé sur tes traces? Tu n'as pas l'idée, jamais tu ne peux la voir, que je me résigne à vivre sans toi. Non, parce que la plus atroce combinaison m'a empêché d'être ton époux, je ne consentirai point à te voir un jour, une heure de moins, que si nous étions unis l'un à l'autre. Nous le sommes. Tout est mensonge dans mes autres liens. Il n'y a de vrai que mon amour, que le tien, car tu m'aimes, Delphine. Je t'en conjure, dis-moi le jour où j'ai formé cet hymen qui ne peut exister qu'aux yeux du monde, cet hymen dont tous les serments sont nuls, puisqu'ils supposaient tous que tu avais cessé de m'aimer. N'étais-tu pas derrière une colonne, témoin de cette fatale cérémonie? Je crus alors que mon imagination seule avait créé cette illusion. Mais s'il est vrai que c'était toi-même que je voyais, comment ne t'es-tu pas jeté dans mes bras? Pourquoi n'as-tu pas redemandé ton amant à la face du ciel? Ah, j'aurais reconnu ta voix. Ton accent eût suffi pour me convaincre de ton innocence. Et devant ce même autel, plaçant ta main sur mon cœur, c'est à toi que j'aurais juré l'amour que je ne ressentais que pour toi seul. Mais qu'importe de cette cérémonie? Elle est vaine puisque c'est à Mathilde qu'elle m'a liée. Ce n'est pas Delphine dont l'esprit supérieur s'affranchit à son gré de l'opinion du monde. Ce n'est pas elle qui repoussera l'amour par un timide respect pour les jugements des hommes. Ton véritable devoir, c'est de m'aimer. Ne suis-je pas ton premier choix? Ne suis-je pas le seul être pour qui ton âme céleste ait senti cette affection durable et profonde dont le sort de ta vie dépendra? Ô mon ami, quoique personne ne puisse te voir sans t'admirer, moi seul je puis jouir avec délice de chacune de tes paroles. Moi seul, je ne perds pas le moindre de tes regards. Aime-moi, pour être adoré dans toutes les nuances de tes charmes. Aime-moi, pour être fier de toi-même, car je t'apprendrai tout ce que tu vaux. Je te découvrirai des vertus, des qualités, des séductions que tu possèdes sans le savoir. Ô Delphine, les lois de la société ont été faites pour l'universalité des hommes. Mais quand un amour sans exemple dévore le cœur, quand une perfidie presque aussi rare a séparé deux êtres qui s'étaient choisis, qui s'étaient aimés, qui s'étaient promis l'un à l'autre, penses-tu qu'aucune de ces lois, calculées pour les circonstances ordinaires de la vie, doivent subjuguer de tels sentiments? Si devant les tribunaux, je démontrais que c'est par l'artifice le plus infâme qu'on a extorqué mon consentement, ne déciderait-il pas que mon mariage doit être cassé? et parce que je n'ai que des preuves morales à alléguer, et parce que l'honneur du monde ne me permet pas de les donner, ne puis-je donc pas prononcer dans ma conscience le jugement que confirmeraient les lois si je les interrogeais? Ne puis-je pas me déclarer libre au fond de mon cœur? Hélas, je le sais, il m'est interdit de te donner mon nom, de me glorifier de mon amour en présence de toute la terre, de te défendre, de te protéger comme ton époux. Il faut que tu renonces pour moi à l'existence que je ne puis te promettre dans le monde et que tant d'autres mettraient à tes pieds. Mais j'en suis sûr, tu me feras volontiers ce sacrifice. Tu ne voudras pas punir un malheureux de l'indigne fausseté dont il a été la victime. Ah, s'il s'accusait, l'infortuné, d'avoir cru trop facilement la calomnie, s'il se reprochait sa conduite avec désespoir, s'il était prêt à détester son caractère, c'est alors surtout, c'est alors, Delphine, que tu sentirais le besoin de consoler cet ami qui ne pourrait trouver aucun repos au fond de son cœur. Oui, je hais tour à tour les auteurs de mes maux et moi-même. Mes amères pensées me promènent sans cesse de l'indignation contre la conduite des autres à l'indignation contre mes propres fautes. Je ne veux rien te cacher, Delphine. En te faisant connaître tous les sacrifices que je te demande, je n'effraierai point ton cœur généreux. Notre union, quels que soient mes soins pour honorer et respecter ce que j'adore, nuira plus à ta réputation qu'à la mienne. Cette crainte t'arrêterait-elle? J'aurais moins le droit qu'un autre de la condamner. Mais entends-moi, Delphine, que des motifs raisonnables ou puérils, nobles ou faibles, t'éloignent de moi, n'importe, je ne survivrai point à notre séparation. Maintenant que tu le sais, c'est à toi seul qu'il appartient de juger quelle est la puissance de ta volonté. A-t-elle assez de force pour te soutenir contre le regret de ma mort? Delphine, en es-tu certaine? Prends garde, je ne le crois pas. Si je t'avais rencontrée, depuis que ma destinée est enchaînée à Mathilde, j'aurais dû, j'aurais peut-être su résister à l'amour. Mais t'avoir connue quand j'étais libre, avoir été l'objet de ton choix et s'être liée à une autre, c'est un crime qui doit être puni. Et je me prendrai pour victime si tu attaches à ma faille des suites si funestes que mon cœur soit à jamais dévoré par le repentir. Quoi? Mon bonheur me serait ravi, non par la nécessité, non par le hasard, mais par une action volontaire, par une action irréparable. Qu'ils vivent ceux qui peuvent soutenir ce mot, l'irréparable. Moi, je le crois sorti des enfers. Il n'est pas de la langue des hommes. Leur imagination ne peut le supporter. C'est l'éternité des peines qu'il annonce. Il exprime à lui seul ses tourments les plus cruels. Les emportements de mon caractère ne m'avaient jamais donné l'idée de la fureur qui s'empare de moi quand je me dis que je pourrais te perdre, et te perdre par l'effet de mes propres résolutions, des sentiments auxquels je me suis livré, des mots que j'ai prononcés. Delphine, en exprimant cette crainte qui me poursuit sans relâche, j'ai été obligée de m'interrompre. J'étais retombée dans l'accès de rage où tu m'as vue lorsque j'accusais sans pitié Madame de Vernon. Je me suis répétée, pour me calmer, que tu ne braverais pas mon désespoir. Oh, ma Delphine, je te verrai sans cesse. Demain, on m'assure que je serai en état de sortir. J'irai chez vous. Votre porte pourrait-elle m'être refusée? Mais d'où vient cette terreur? Ne connais-je pas ton cœur généreux, ton esprit éminemment doué de courage et d'indépendance? Quel motif pourrait t'empêcher d'avoir pitié d'un malheureux qui t'est cher et qui ne peut plus vivre sans toi? Lettre 2. Réponse de Delphine à Léonce. Quel motif pourrait m'empêcher de vous voir? Léonce. Des sentiments personnels ou timides n'exercent aucun pouvoir sur moi. Dieu m'est témoin que, pour tous les intérêts réunis, je ne céderai pas une heure qu'il me serait accordé de passer avec vous, sans remords. Mais ce qui me donne la force de dédaigner toutes les apparences et de m'élever au-dessus de l'opinion publique elle-même, c'est la certitude que je n'ai rien fait de mal. Je ne crains point les hommes tant que ma conscience ne me reproche rien. Il me ferait trembler si j'avais perdu cet appui. Nous sommes bien malheureux, ô Léonce. Croyez-vous que je ne le sente pas? Tout semblait d'accord il y a quelques mois pour nous assurer la félicité la plus pure. J'étais libre, ma situation et ma fortune m'assuraient une parfaite indépendance. Je vous ai vu, je vous ai aimé de toutes les facultés de mon âme. Et le coup le plus fatal, celui que la plus légère circonstance, le moindre mot aurait pu détourner, nous a séparés pour toujours. Mon ami, ne vous reprochez point notre sort. C'est la destinée seule qui nous a perdus tous les deux. Pensez-vous que je ne doive pas aussi m'accuser de mon malheur? Souvent, je me révolte contre cette destinée irrévocable. Je m'agite dans le passé comme s'il était encore de l'avenir. Je me repens avec amertume de n'avoir pas été vous trouver lorsque 100 fois je l'ai voulu. Le désespoir me saisit au souvenir de cette fierté, de cette crainte misérable qui ont enchaîné mes actions, quand mon cœur m'inspirait l'abandon et le courage. S'il vous est plus doux, Léonce, quand vous souffrez, de songer à quel cœur que ce puisse être, que, dans le même instant, Delphine, votre pauvre amie, accablée de ses peines, implore le ciel pour les supporter. Le ciel qui, jusqu'alors, l'avait toujours secouru et qu'elle implore maintenant en vain. Si cette idée, tout à la fois cruelle et douce, vous fait du bien, ah, vous pouvez vous y livrer. Mais que font nos douleurs à nos devoirs? La vertu que nous adorions dans nos jours de prospérité n'est-elle pas restée la même? Doit-elle avoir moins d'empire sur nous parce que l'instant d'accomplir ce que nous admirions est arrivé? Le sort n'a pas voulu que les plus pures jouissances de la morale et du sentiment nous fussent accordées. Peut-être, mon ami, la Providence nous a-t-elle jugés dignes de ce qu'il y a de plus noble au monde, le sacrifice de l'amour à la vertu. Peut-être, hélas, j'ai besoin, pour me soutenir, de ranimer en moi tout ce qui peut exalter mon enthousiasme, et je sens avec douleur que pour toi seul, ô Léonce, j'éprouve ces élans de l'âme que m'inspirait jadis le culte généreux de la vertu. Ce qui dépend encore de nous, c'est de commander à nos actions. Notre bonheur n'est plus en notre puissance, remettons-en le soin au ciel. Après beaucoup d'efforts, il nous donnera du moins le calme, oui, le calme à la fin. Quel avenir! De longues douleurs et le repos des morts pour unique espoir. N'importe. Il faut, Léonce, il faut ou désavouer les nobles principes dont nous étions si fiers, ou nous immoler nous-mêmes à ce qu'ils exigent de nous. Vous apercevrez aisément dans cette lettre à quel combat je suis livré. Si vous en concevez plus d'espoir, vous vous tromperez. Je sais que les devoirs que j'aimais n'ont plus de charme à mes yeux, que l'amour a décoloré tous les autres sentiments de ma vie, que j'ai besoin de lutter à chaque instant contre les affections de mon cœur qui m'entraînent toutes vers vous. Je le sais, je consens à vous l'apprendre, mais c'est parce que je suis résolue à ne plus vous voir. Vous dirai-je le secret de ma faiblesse? Si, déterminée au plus grand, au plus cruel, au plus courageux des sacrifices, je ne me croyais pas dispensée de tout autre effort. Je suivrai le projet que j'avais formé avant votre retour d'Espagne. Qu'y a-t-il de changé depuis ce retour? Je vous ai vu, et voilà ce qui me persuade que de nouveaux obstacles s'opposent à mon départ. Le plus grand des dangers, c'est de vous voir. C'est contre ce seul péril, ce seul bonheur qu'il faut s'armer. Ne vous irritez pas de cette détermination. Songez à ce qu'elle me coûte. Ayez pitié de moi. Que tout votre amour soit de la pitié. Je m'essaie à roidir mon âme pour exécuter ma résolution. Mais savez-vous quelle est ma vie? Le savez-vous? Je ne me permets pas un instant de loisir afin d'étourdir, s'il se peut, mon cœur. J'invente une multitude d'occupations inutiles pour amortir, sous leur poids, l'activité de mes pensées. Tantôt je me promène dans mon jardin avec rapidité pour obtenir le sommeil par la fatigue. Tantôt, désespérant d'y parvenir, je prends de l'opium le soir afin de m'endormir quelques heures. Je crains d'être seul avec la nuit, qui laisse toute sa puissance à la douleur et n'affaiblit que la raison. Je serais déjà parti si vous ne m'aviez pas annoncé que vous me suivriez. Je vous demande votre parole de ne pas exécuter ce projet. Quel éclat qu'une telle démarche, quel tort envers votre femme, dont le bonheur, à plusieurs titres, doit m'être toujours sacré. Et que gagneriez-vous si vous persistiez dans cette résolution insensée? Au milieu de la route, dans quelque lieu glacé par l'hiver, je vous reverrai encore, et je mourrai de douleur à vos pieds, si je ne me sentais pas la force de remplir mon devoir en vous quittant pour jamais. Léonce, il y a dans la destinée des événements dont jamais on ne se relève, et lutter contre leur pouvoir, c'est tomber plus bas encore dans l'abîme des douleurs. Méritons par nos vertus la protection d'un Dieu de bonté. Nous ne pouvons plus rien faire pour nous qui nous réussissent. Essayons d'une vie dévouée, d'une vie de sacrifice et de devoir. Elle a donné presque du bonheur à des âmes vertueuses. Regardez Madame d'Hervin, victime de l'amour et du repentir. Elle va s'enfermer pour jamais dans un couvent. Elle a refusé la main de son amant. Elle renonce à la félicité suprême. Et cette félicité, cependant, n'aurait coûté de larmes à personne. C'est moi qui résiste à vos prières. Et c'est moi, cependant, qui emporterai dans mon cœur un sentiment que rien ne pourra détruire. Quand je me croyais dédaigné, insulté même par vous, je vous aimais. Je cherchais à me trouver des torts pour excuser votre injustice. Ah, ne m'oubliez pas. Y a-t-il un devoir qui vous commande de m'oublier? Quand il existerait ce devoir, qu'il soit désobéi. Si je me sentais une seconde fois abandonné de votre affection, s'il fallait rentrer dans la ténébreuse solitude de la vie, je ne le supporterai plus. Léonce, établissons entre nous quelques rapports qui nous soient à jamais chers. Tous les ans, le 2 décembre, le jour où vous avez cessé de me croire coupable, allez dans cette église où je vous ai vu, car je ne puis me résoudre à le nier, dans cette église où je vous ai vu donner votre main à Mathilde. Pensez à moi dans ce lieu même. Appuyez-vous sur la colonne derrière laquelle j'ai entendu le serment qui devait causer ma douleur éternelle. Ah, pourquoi mes cris ne se sont-ils pas fait entendre? Je n'aurais bravé que les hommes, et maintenant je braverai Dieu même en me livrant à vous voir. Léonce, jusqu'à ce jour, je puis présenter une vie sans tache à l'être suprême. Si tu ne veux pas que je conserve ce trésor, prononce que j'ai assez vécu. J'en recevrai l'ordre de ta main avec joie. Quand je me sentirai prêt à mourir, j'aurai encore un moment de bonheur qui vaut tout ce qui m'attend. Je me permettrai de t'appeler auprès de moi, de te répéter que je t'aime. Le veux-tu? Dis-le-moi. Va, ce désir ne serait point cruel. Ne te suffit-il pas que mon cœur, juge du tien, en fût reconnaissant? Je me perds en vous écrivant. Je ne suis plus maîtresse de moi-même. Il faut encore que je m'interdise ce dernier plaisir. Adieu. Lettre 3. Léonce à Delphine. Vous partiriez sans me voir, vous? La terre manquerait sous mes pas avant que je cessasse de vous suivre. Avez-vous pu penser que vous échapperiez à mon amour? Il dompterait tout, et vous-même. Respectez un sentiment passionné, Delphine. Je vous le répète, respectez-le. Vous ne savez pas, en le bravant, quels mots vous attireriez sur nos têtes. J'ai été ce matin à votre porte, faible encore. Je pouvais à peine me soutenir. On a refusé de me recevoir. J'ai fait quelques pas dans votre cour. Vos gens ont persisté à m'interdire d'aller plus loin. Madame d'Artena était chez vous. Je n'ai pas voulu faire un éclat. J'ai levé les yeux vers votre appartement. J'ai cru voir, derrière un rideau, votre élégante figure. Mais l'ombre même de vous a bientôt disparu. Et votre femme de chambre est venue m'apporter votre lettre, en me priant de votre part de la lire avant de demander à vous voir. J'ai obéi. Je ne sais quel trouble que je me reproche à disposer de moi. Si vous alliez quitter votre demeure, si vous partiez à mon insu, si j'ignorais où vous êtes allé, non, vous ne voulez pas condamner votre malheureux amant à vous demander en vain, dans chaque lieu, croyant sans cesse vous voir, et sans cesse vous perdre, et se précipitant par de vains efforts vers votre image, comme dans ces songes funestes dont la douleur ne pourrait se prolonger sans donner la mort. Delphine, vous qui n'avez jamais pu supporter le spectacle de la souffrance, est-ce donc moi seule que vous acceptez de votre bonté compatissante? Parce que je vous aime, parce que vous m'aimez aussi, ma douleur n'est-elle rien? Ne regardez-vous pas comme un devoir de la soulager? Oh, qu'avais-je fait aux hommes? Qu'avais-je fait à cette perfide qui m'a donné sa fille, quand je devais consacrer mon sort au vôtre? Et vous, qui me demandiez de pardonner, de quel droit le demandiez-vous, si vous êtes plus inflexible pour moi que vous ne l'avez été pour mes persécuteurs? Vous refusez de m'entendre, et vous ne savez pas ce que j'ai besoin de vous dire. Jamais, Delphine, jamais je n'ai pu te parler du fond de mon cœur. Mille circonstances nous ont empêchés de nous voir librement. S'il m'est accordé de t'entretenir une fois seulement, sans craindre d'être interrompu, sans compter les heures, je sens que je te persuaderai. Tu verras que rien de pareil à notre situation ne s'est encore rencontré. Que nous nous sommes choisis quand nous pouvions nous choisir, quand nous étions maîtres de disposer de nous-mêmes. Il a fallu nous tromper pour nous désunir. Notre âme n'a pris aucun engagement volontaire. Devant ton Dieu, nous sommes libres. Ô Delphine, toi qui respectes, toi qui fais aimer la Providence éternelle, crois-tu qu'elle m'ait donné les sentiments que j'éprouve pour me condamner à les vaincre? Quand la nature frémit à l'approche de la douleur, la nature avertit l'homme de l'éviter. Son instinct serait-il moins puissant dans les peines de l'âme? Si la mienne se bouleverse par l'idée de te perdre, dois-je m'y résigner? Non, non, Delphine. Je sais ce que les moralistes les plus sévères ont exigé de l'homme. Mais lorsqu'une puissance inconnue met dans mon cœur le besoin dévorant de te revoir encore, cette puissance, de quelque nom que tu la nommes, défends impérieusement que je me sépare de toi. Mon ami, je te le promets dès que je t'aurai vu. C'est à toi que je m'en remettrai pour décider de notre sort. Mais il faut que je t'exprime les sentiments qui m'oppressent. Le jour, la nuit, je te parle, et il me semble que je te montre dans mes sentiments, dans notre situation, des vérités que tu ignorais et que seul je puis t'apprendre. Je ne retrouve plus quand je t'écris ce que j'avais pensé. Je ne puis communiquer à mes lettres cet accent que le ciel nous a donné pour convaincre. Et s'il est vrai, cependant, que si je te parlais, tu consentirais à passer tes jours avec moi, dans quel état ne me jetteriez-vous pas, Delphine, en me condamnant sans m'avoir permis de plaider moi-même pour ma vie? Vous êtes si forte contre mon malheur. Vous devez vous croire certaine de me refuser, même après m'avoir écoutée. Pourquoi donc ne pas me calmer un moment par ce vain essai dont votre fermeté triomphera? Delphine, s'il fallait nous quitter, s'il le fallait, voudriez-vous me laisser un sentiment amer contre vous? Ange de douceur, le voudriez-vous? Vous n'avez point refusé vos soins, vos consolations célestes à Madame de Vernon, à celle qui nous avait séparés. Et moi, Delphine, et moi, me croyez-vous si loin de la mort qu'au moins un adieu ne me soit pas dû? Vous avez vu la violence de mon caractère dans ce jour funeste où, sans vous, je me serais montré plus implacable encore. Songez quel est mon supplice, maintenant que je suis renfermé dans ma maison avec une femme qui a pris ta place. Ô Delphine, je suis à 50 pas de toi, et je ne puis néanmoins obtenir de te voir. J'envoie 10 fois le jour pour m'assurer que vous n'avez point ordonné les préparatifs de votre départ. Je tressaille comme un enfant à chaque bruit. Je fais des plus simples événements des présages. Tout me semble annoncer que je ne te verrai plus. Tu parles de ta douleur, Delphine. Ton âme douce n'a jamais éprouvé que des impressions qu'elle pouvait dominer. Mais la douleur d'un homme est âpre et violente. La force ne peut lutter longtemps sans triompher ou périr. Comment as-tu la puissance de supporter l'état où je suis, de refuser un mot qui le ferait cesser comme par enchantement? Je ne te reconnais pas, mon ami. Tu permets à tes idées sur la vertu d'altérer ton caractère. Prends garde, tu vas l'endurcir. Tu vas perdre cette bonté parfaite, le véritable signe de ta nature divine. Quand tu te seras rendu inflexible à ce que j'éprouve, quelle est donc la douleur qui jamais t'attendrira? C'est la sensibilité qui répand sur tes charmes une expression céleste. Quel échange tu feras si, en accomplissant ce que tu nommes des devoirs, tu dessèches ton âme, tu étouffes tous ces mouvements involontaires que t'inspiraient tes vertus et ton amour. Ne va point, par de vaines subtilités, distinguer en toi-même ta conscience de ton cœur. Interroge-le, ce cœur. Repousse-t-il l'idée de me voir comme il repousserait une action vile ou cruelle? Non. Il t'entraîne vers moi. C'est ton Dieu, c'est la nature, c'est ton amant qui te parle. Écoute une de ces puissances protectrices de ta destinée. Écoute-les, car c'est au fond de ton âme qu'elles exercent leur empire. Oublie tout ce qui n'est pas nous. Nos âmes se suffisent. Anéantissons l'univers dans notre pensée et soyons heureux. Heureux. Sais-tu ce que j'appelle le bonheur? C'est une heure. Une heure d'entretien avec toi. Et tu me la refuserais. Je me contiens. Je te cache ce que j'éprouve à cette idée. Ce n'est point en effrayant ton âme que je veux la toucher. Que ta tendresse seule te fléchisse. Delphine, une heure, et tu pourras après, si ton cœur conserve encore cette barbare volonté, Oui, tu pourras, après, te séparer de moi. Lettre 4. Réponse de Delphine à Léonce. Si je vous revois, Léonce, jamais je n'aurai la force de me séparer de vous. Vous refuserais-je ce dernier entretien? Le refuserais-je à mes vœux ardents, si je ne savais pas que vous revoir et partir est impossible? Que parlez-vous de vertu, d'inflexibilité? C'est vous qui devez plaindre ma faiblesse et me laisser accomplir le sacrifice qui peut seul me répondre de moi. Quoi qu'il m'en coûte pour vous peindre ce que j'éprouve, il faut que vous connaissiez tout votre empire. Vous prononcerez vous-même alors que j'ai dû quitter ma maison pour me dérober à vous. Vous m'aviez écrit que vous viendriez chez moi ce matin, et j'avais eu la force d'ordonner qu'on ne vous reçût pas. J'avais passé une partie de la nuit à vous écrire. Je voulais être seule tout le jour. J'avais besoin, quand je m'interdisais votre présence, de ne m'occuper que de vous. Madame d'Artena se fit ouvrir ma porte d'autorité, mais je l'engageai sous un prétexte à lire dans mon cabinet un livre qui l'intéressait, et je restai dans ma chambre, debout, derrière le rideau de ma fenêtre, les yeux fixés sur l'entrée de la maison, tenant à ma main la lettre que je vous avais écrite, et qui devait, du moins, je l'espérais, adoucir mon refus. Je demeurai ainsi pendant près d'une heure, dans un état d'anxiété qui vous toucherait peut-être si vous pouviez cesser d'être irrité contre moi. Quand je n'entendais aucun bruit, je me confirmais dans la résolution que m'impose le devoir. Mais quand ma porte s'ouvrait, je sentais mon cœur défaillir et le besoin de revoir encore celui que je dois quitter pour toujours triomphait alors de moi. Enfin vous paraissez. Vous faites quelques pas vers l'homme qui devait vous dire que je ne pouvais pas vous recevoir. Votre marche se ressentait encore de la faiblesse de la maladie. Vos traits me parurent altérés. Mais cependant, jamais, je vous l'avoue, jamais je n'ai trouvé dans votre visage, dans votre expression, un charme séducteur qui pénétra plus avant dans mon âme. Vous changeâtes de couleur au refus réitéré de mes gens. Il me sembla que je vous voyais chanceler, et dans cet instant vous l'emportâtes sur toutes mes résolutions. Je m'élançai hors de ma chambre pour courir à vous, pour me jeter peut-être à vos pieds, aux yeux de tous, et vous demander pardon d'avoir pu songer à me défendre de votre volonté. J'éprouvais comme un transport généreux. Il me semblait que j'allais me dévouer à la vertu en me livrant à ma passion pour vous. J'étais enivrée de cette pitié d'amour, le plus irrésistible des mouvements de l'âme. Toute autre pensée avait disparu. Je rencontrai Madame d'Artena comme je descendais dans cet égarement. « Mon Dieu, qu'avez-vous ? » me dit-elle. Cette question me fit rougir de moi-même. « Je vais envoyer une lettre, » lui répondis-je. Et, soutenue par sa présence et par des réflexions qu'un moment avait fait renaître, je donnai l'ordre de vous porter ma lettre et de vous demander de retourner chez vous pour la lire. C'est alors que j'ai senti combien le péril de vous voir était plus grand encore que je ne le croyais. Votre présence dans aucun temps n'avait produit un tel effet sur moi. Je tremblais, je pâlissais. Si j'avais entendu votre voix, si vous m'aviez parlé, j'aurais perdu la force de me soutenir. L'apparition d'un être surnaturel, portant à la fois dans le cœur l'enchantement et la crainte, ne donnerait point encore l'idée de ce que j'éprouvais quand vos yeux se levèrent vers ma fenêtre comme pour m'implorer, quand, devant ma maison depuis si longtemps solitaire, je vis celui que j'ai tant pleuré. Léonce, je l'ai quitté cette maison que vous veniez de me rendre chère. Je l'ai quitté à l'instant même. Il le fallait. Si vous étiez revenu, tout était dit. Je ne partais plus. Après le récit que je me suis condamné, non sans honte, à vous faire, serez-vous indigné contre moi? Vous inspirerai-je le sentiment amer dont vous m'avez menacé? Ne me rendrez-vous pas enfin la liberté d'aller en Languedoc? Je suis caché dans un lieu où vous ne pouvez me découvrir. Et je n'attends pour me mettre en route que votre promesse de ne pas me suivre. Ah, Léonce, quand je sacrifie toute ma destinée à Mathilde, voulez-vous qu'un éclat funeste empoisonne sa vie sans nous réunir? Oui, Léonce, votre devoir et le mien, c'est de ne pas rendre Mathilde infortunée. La morale, qui défend de jamais causer le malheur de personne, est au-dessus de tous les doutes du cœur et de la raison. Plus je souffre, plus je frémis de faire souffrir. Et ma sympathie pour la douleur des autres s'augmente avec mes propres douleurs. Ne vous appuyez point de ce sentiment pour me reprocher vos peines. Votre malheur à vous, Léonce, c'est le mien. Je ne puis tromper assez ma conscience pour me persuader que la bonté me commande de ne pas vous affliger. Ah, c'est à moi, c'est à ma passion que je céderai en consolant votre cœur. Je ne ferai jamais rien pour toi qui ne soit inspiré par l'amour. Léonce, pourquoi vous le cacherais-je? Je ne dois rien taire après ce que j'ai dit. Si je n'avais compromis que moi en passant ma vie avec vous, si je n'avais détruit que ma réputation et ce contentement intérieur dont je faisais ma gloire et mon repos, j'aurais livré mon sort à toutes les adversités qu'entraîne un sentiment condamnable. J'aurais prosterné devant toi cette fierté, le premier de mes biens, quand je ne te connaissais pas. Quoi qu'il pût en arriver, je te reverrais, et ce bonheur me ferait vivre ou me consolerait de mourir. Mais s'il s'agit du sort d'une autre, et l'amour même ne pourrait triompher dans mon cœur des remords que j'éprouverais si j'immolais Mathilde à mon bonheur. J'ai promis à sa mère mourante de la protéger, et quelque coupable que fût la malheureuse Sophie, c'est sur cette promesse que s'est reposée sa dernière pensée. Qui pourrait absoudre d'un crime envers les morts? Quelle voix dirait qu'ils sont pardonnés? Mathilde elle-même n'est-elle pas la compagne de mon enfance? Ne me suis-je pas lié à son sort en le protégeant? Je recevrai votre vie qui lui est due. Je la dépouillerai à 18 ans de tout son avenir? Non, Léonce, accordez à Mathilde ce qui suffit à son repos. Votre temps, vos soins. Elle ignore que vous m'aimez. Elle me devra de l'ignorer toujours. Cette idée me calmera, je l'espère, dans les moments de désespoir dont je ne puis encore me défendre. Léonce, vous serez heureux un jour par les affections de famille. Vous n'oublierez pas alors que j'ai renoncé à tout dans cette vie pour vous assurer le bonheur des liens domestiques, et vous pourrez mêler un souvenir tendre de moi à vos jouissances les plus pures. Lettre 5. Léonce à Delphine. Vous n'êtes plus dans votre maison. Vous l'avez quittée pour me fuir. Je ne puis retrouver vos traces. Je parcours comme un furieux tous les lieux où vous pouvez être. Non, ce n'est pas de la vertu qu'une telle conduite. Pour y persister, il faut être insensible. À quoi me servirait de vous peindre mes douleurs? Vous avez bravé tout ce que pouvait m'inspirer mon désespoir. Cependant, rassemblez tout ce que vous avez de force, car je mettrai votre âme à rude épreuve. Et s'il vous reste encore quelque bonté, votre résolution vous coûtera cher. J'ai été hier à Bellerive, à Cernay, chez madame de Lébancy. Elle m'a juré, d'un air qui me semblait vrai, qu'elle ignorait où vous étiez. Je suis revenu. J'ai été trouver votre valet de chambre, Antoine. Vous raconterai-je ce que j'ai fait pour obtenir de lui votre secret? Je crois qu'il le sait, car il m'a presque promis de vous faire parvenir demain cette lettre, mais rien n'a pu l'engager à me le dire. Je me suis promenée le reste du jour, enveloppée de mon manteau, dans votre rue ou dans celles qui y conduisent. J'étais là pour m'attacher aux pas d'Antoine, malheureux que je suis, réduit à me servir des plus odieux moyens, pour obtenir de vous, qui croyez m'aimer, une grâce que vous ne devriez pas refuser au dernier des hommes. Chaque fois que de loin j'apercevais une femme qui pouvait me faire un instant d'illusion, j'approchais avec un saisissement douloureux et je reculais bientôt, indigné d'avoir pu m'y méprendre. Je me sentais de l'irritation contre tous les êtres qui allaient, venaient, s'agitaient, passaient à côté de moi, sans avoir rien à me dire de vous, sans s'inquiéter de mon supplice. Le soir, ne craignant plus enfin d'être reconnu, j'ai pu me reposer quelques moments sur un banc près de votre porte et recevoir sur ma tête la pluie glacée qui tombait hier. Mais le douloureux plaisir de m'abandonner à mes réflexions ne m'était pas même accordé. J'écoutais, je regardais, avec une attention soutenue, tout ce qui pouvait se passer autour de votre maison. Mes pensées étaient sans cesse interrompues, sans que mon âme fût un instant soulagée. Je me vois, à chaque moment, croyant voir Antoine qui revenait en cherchant à m'éviter. Quand je faisais quelques pas dans un sens, je retournais tout à coup, me persuadant que c'était du côté opposé que j'aurais découvert ce que je cherchais. Les heures se passaient, je restais seul dans les rues. Il devenait à chaque instant plus invraisemblable qu'au milieu de la nuit je pusse rien apprendre. Mais dès que je me décidais à m'en aller, j'étais saisi d'un désir si vif de rester que je le prenais pour un pressentiment. Et quoique 20 fois trompé, je cédais aux agitations de mon cœur comme à des avertissements surnaturels. Enfin le jour est arrivé. J'ai pris pour vous écrire une chambre en face de votre maison. J'ai appuyé sur la fenêtre d'où l'on voit votre porte, et mes yeux ne peuvent se fixer un instant de suite sur mon papier. Pourrez-vous lire ces caractères tracés au milieu des convulsions de douleur que vous me causez? Si je passe 4 heures dans cet état, je vous haïrai. Oui. Les anges seraient haïs s'ils condamnaient au supplice que vous me faites souffrir. Ce supplice dénature mon caractère, mon amour, ma morale elle-même. Si vous prolongez cette situation, savez-vous qui souffrira de ma douleur? Mathilde. Oui, Mathilde, à qui vous me sacrifiez. J'aurais eu des soins pour elle si vous m'aviez aimé, si je vous avais vu. Mais je déteste en elle l'hommage que vous lui faites de mon sort. Je la regarde comme l'idole devant laquelle il vous a plu de m'immoler. Et du moins, je jouis de penser que vos vertus imprudentes, autant qu'obstinées, n'auront fait que du mal à tous les trois. Si vous me cachez où vous êtes, si vous continuez à refuser de me voir, ma résolution est prise, et vous savez que je suis capable de quelque fermeté. Je révélerai à Mathilde par quelle suite de mensonges l'on m'a fait son époux. Et, lui déclarant en même temps que, dans le fond de mon cœur, je regarde notre mariage comme nul, je lui abandonnerai la moitié de ma fortune. Elle conservera mon nom et ne me reverra jamais. Je passerai ce qu'il me restera de temps à vivre auprès de ma mère en Espagne, et celle à qui vous aviez jugé convenable de me dévouer n'entendra parler de moi qu'à ma mort. Que m'importe ce qu'on peut me dire sur le devoir? Les tourments n'affranchissent-ils pas des devoirs? Quand la fièvre vient assaillir un homme, on n'exige plus rien de lui. On le laisse se débattre avec la douleur, et tous ses rapports avec les autres sont suspendus. N'ai-je pas aussi mon délire? Peut-on rien attendre de moi? Je n'ai qu'une idée, qu'une sensation. Parlez-moi de vous revoir, et je vous écouterai, et toutes les vertus rentreront dans mon âme. Sans cet espoir, qui pourra me faire renoncer à mes projets? Qui découvrira un moyen d'agir sur ma volonté? Personne, jamais personne. Et vous, surtout, Delphine, de quel droit m'offririez-vous des conseils pour le malheur que vous m'imposez? C'est le dernier degré de l'insulte que de vouloir être à la fois l'assassin et le consolateur. Vous le voyez, tout est dit. J'instruirai Mathilde par une lettre des circonstances de notre mariage, de mon amour pour vous et de la décision où je suis de vivre loin d'elle. Dans 24 heures, elle saura tout si vous ne m'écrivez pas que vos résolutions sont changées ou seulement si vous gardez le silence. Ce que contiendra ma lettre une fois dit est irrévocable. Si les paroles que je prononcerai sont amères, vous saurez qui les a dictées. Et si je plonge la douleur dans le sein de Mathilde, ce n'est pas ma main égarée qu'il faut en accuser. C'est le sang-froid, c'est la raison tyrannique qui vous sert à me rendre insensé. Lettre 6. Réponse de Delphine à Léonce. Vous avez cru m'effrayer par votre indigne menace. Depuis que je vous connais, je me suis sentie de la force contre vous une seule fois. C'est après avoir lu votre lettre. J'ai imaginé pendant quelques instants que vous pouviez faire ce que vous m'annonciez, et je pensais à vous sans trouble, car j'avais cessé de vous estimer. Léonce, ce moment d'une tranquillité cruelle n'a pas duré. J'ai rougi d'avoir craint que vous fussiez capable de l'action la plus dure et la plus immorale que jamais homme pût se permettre. Vous, Léonce, vous condamneriez au plus cruel isolement une femme aussi vertueuse que Mathilde? Elle vient de perdre sa mère, et vous lui ôteriez son époux? Vous lui laisseriez, dites-vous, votre nom et votre bien. C'est-à-dire que vous seriez sans reproche aux yeux du monde, qui juge si différemment les devoirs des maris et des femmes. Mais que feriez-vous réellement pour Mathilde? Avez-vous réfléchi au malheur d'une femme dont tous les liens naturels sont brisés? Savez-vous que, par la dépendance de notre sort et la faiblesse de notre cœur, nous ne pouvons marcher seuls dans la vie? Mathilde est très religieuse, mais sa raison a besoin de guide. S'il ne lui restait plus une seule affection sur la terre, les chagrins, exaltant sa dévotion déjà superstitieuse, la porterait bientôt à un enthousiasme fanatique dont on ne peut prévoir les effets. Quel crime a-t-elle commis envers vous pour la punir ainsi? Sa mère l'estimait assez pour n'avoir pas osé lui confier les ruses qui cependant avaient servi à son bonheur. Mathilde vous a vu, Mathilde vous a aimé. Elle savait qu'elle était destinée à vous épouser. Elle a cru suivre son devoir en se livrant à l'attachement que vous lui inspirez. Et moi, juste ciel, et moi, qui dois si bien comprendre ce que votre perte peut faire souffrir, je causerai à Mathilde la douleur au-dessus de toutes les douleurs? Car ne vous y trompez pas, Léonce. Si vous vous rendiez coupable de l'action dont vous me menacez, c'est moi que j'en accuserais. Non parce que j'aurais refusé de vous voir, non pour avoir tenté de triompher de ma faiblesse, mais pour vous avoir laissé lire dans ce cœur qui devait se fermer pour jamais du moment où vous n'étiez plus libre. Je m'accuserais d'avoir inspiré un sentiment qui, loin de rendre meilleur l'objet que j'aime, lui aurait fait perdre ses vertus. Léonce, est-ce ainsi que nous sommes faits pour nous aimer? Ce sentiment, qui, je le crois, ne s'éteindra jamais, ne devait-il pas servir à perfectionner notre âme? Oh, qu'est-ce que l'amour sans enthousiasme? Et peut-il exister de l'enthousiasme sans que le respect des idées morales soit mêlé de quelque manière à ce qu'on éprouve? Si je cessais d'estimer votre caractère, que seriez-vous pour moi, Léonce? Le plus aimable, le plus séduisant des hommes. Mais ce n'est point par ces charmes seuls que mon cœur eût été subjugué. Ce qui a décidé de ma vie, c'est que vos qualités, c'est que vos défauts même, me semblaient appartenir à une âme noble et fière. J'ai reconnu en vous la passion de l'honneur, exagérée s'il est possible, mais inséparable, je l'imaginais, des véritables vertus. Je vous ai cru le besoin de votre propre approbation, plus encore que celui du suffrage des autres hommes. Jamais on n'a prononcé devant vous une parole généreuse ou sensible sans que je vous aie vu tressaillir. Jamais vous n'avez entendu raconter une belle action sans que vos regards aient exprimé cette émotion profonde qui désigne l'une à l'autre les âmes d'une nature supérieure. Voudriez-vous abjurer tout ce qui fut la cause de mon amour? Dans ce moment où je me condamne au sacrifice le plus cruel que le devoir puisse exiger, l'idée que je me suis faite de vous me soutient et me relève. Je souffre pour mériter votre estime. Peut-être ce motif a-t-il plus d'empire sur moi que je ne le crois encore. Vous sacrifieriez l'amour et son bonheur à l'opinion publique, Léonce. Vous le feriez, je le sais. Et que penseriez-vous donc de moi, si Dieu et ma conscience avaient moins d'empire sur ma conduite que l'honneur du monde sur la vôtre? Il me reste encore quelques forces. Je dois m'en servir pour fuir le remords. Si, malgré mes efforts les plus sincères, vous parvenez à renverser mes résolutions, il n'y aura point de terme aux malheurs qui nous poursuivront. Ma réputation s'altérera bientôt, et peut-être m'en aimerez-vous moins. Juste ciel! Pouvez-vous rien imaginer qui alors égala mon supplice? Les sacrifices que j'aurais faits à votre amour me flétriraient à vos yeux mêmes. Et qui sait s'il serait temps encore de ranimer votre cœur par une action désespérée, et de reconquérir pour ma mémoire l'affection pure et vive que le blâme du monde aurait ternie. Léonce, des craintes, des réflexions sans nombre se pressent dans ma pensée et luttent contre le sentiment qui m'entraîne vers toi. Ah, que n'en coûte-t-il pas pour s'arracher au bien suprême? Mais d'où vient donc l'effroi qui me saisit lorsque je me sens prête à céder à vos vœux? C'est la protection du ciel qui m'inspire cet effroi salitaire. Peut-être l'ombre d'un ami que j'ai perdu fait-elle un dernier effort pour me sauver, et gémit-elle autour de moi, sans que mes sens puissent saisir ni ses paroles, ni son image. Léonce, si j'ai cessé de vous entretenir de Mathilde dont j'étais d'abord uniquement occupée, c'est que je ne crains plus le projet que l'égarement d'un instant vous avait inspiré. Je n'ai pas besoin de votre réponse pour être sûr que vous y avez renoncé. Je ne sais dans quel endroit de cette lettre j'ai éprouvé tout à coup la certitude que je vous avais persuadé. Mais cette impression ne m'a pas trompé. Ô Léonce, nous ne sommes pas encore tout à fait séparés. Mes propres mouvements m'apprennent ce que vous ressentez. Il est resté dans mon cœur je ne sais quelle intelligence, quelle communication avec vous, qui me révèle vos pensées.